C'est trop longtemps.
Oui, j'étais avec vous autres. Et c'est un privilège d'être ici ce matin. Non, c'est vrai, hein? Oui. Oui. Vous pouvez voir comment ça va dérouler ce matin. Donc, et c'est, comme je viens de dire, c'est un privilège d'être ici avec vous. Je suis désolé un peu pour vous parce que ça fait 8 semaines et demie depuis que j'ai parlé en français. Donc, c'est un grand défi pour vous de m'écouter ce matin. Ah oui, c'est ça, merci. OK. On va prier. Seigneur, je veux te remercier pour qui tu es, pour ton amour pour nous tous. Seigneur, sans ton amour, on n'a pas l'espoir ce matin. Et Seigneur, quand je pense à le sacrifice que tu as fait pour moi, ça me dépasse. Je peux pas comprendre comment tu peux m'aimer d'une si façon que, de telle façon que tu as envoyé ton Fils unique pour payer le prix pour tous mes péchés. Et Seigneur, on veut consacrer notre temps ce matin à toi, Seigneur. Je prie que tu vas nous aider d'apprendre de ta parole, d'aller plus profond dans notre relation avec toi. Et je prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Mais je veux vous remercier pour tous vos prières pour ma famille. J'ai resté plus longtemps en Indiana parce que mon frère qui habite en Floride, il est venu en Indiana. C'est la première fois depuis 4 ans que je l'ai vu. Donc, c'était le fun de le voir. Et aussi, mon autre frère, Scott, il a eu son opération ce jeudi passé pour enlever son vessie. Il y a le cancer, donc c'est enlevé, mais incroyablement, le médecin a créé un nouveau vessie pour lui de son intestin. Donc, ça s'est bien passé l'opération et continuez de prier pour lui parce qu'il y a un long rétablissement, mais aussi prier pour son vie spirituelle parce qu'il est pas croyant, selon moi. Évidemment, c'est entre lui et Dieu, mais selon ce que je vois dans sa vie et dans ses paroles, en tout cas, il a besoin de savoir qui il est et qui est Jésus. Donc, priez pour ça. Et en tout cas, c'était un bon temps avec ma famille, mais je suis vraiment content d'être de retour, d'être avec ma famille ici à Québec et avec vous ce matin. Donc, ce matin, je retourne à une histoire ancienne. C'est une histoire... Merci. C'est une histoire qui... Oui, c'est ancienne, mais en même temps, il y a une pertinence, un sens pour notre vie d'aujourd'hui. En fait, cette histoire est si ancienne qu'elle a été écrite avant le début du temps. C'est d'une importance considérable pour nos vies, car il a été écrit dans la pensée de Dieu et il concerne chacun d'entre nous ici dans cette salle ce matin. C'est une histoire qui doit être lue encore et encore. C'est une histoire qui ne vit jamais et qui apporte toujours le réconfort. C'est une histoire d'amour et de tristesse. C'est une histoire de tragédie et l'espoir. C'est une histoire de sacrifice et de torture. Et une histoire de grâce et de miséricorde. Avez-vous une idée de quelle histoire je parle ce matin? C'est ça, l'histoire de Jésus, l'histoire de l'Évangile. Oui, c'est ça. C'est le fun d'avoir toujours la bonne réponse de Jésus, hein? Je sais pas pourquoi toutes nos questions sont dirigées vers lui, mais... OK. Oui, c'est ça. Et cette histoire qui a été écrite avant le début de temps et qui a été vécue, en fait, il y a 2000 ans, il a le pouvoir de changer la vie de chaque homme, chaque femme et chaque enfant qui était vivant, qui est vivant maintenant, qui va vivre dans l'avenir. C'est une histoire très, très puissante. C'est la plus grande histoire d'amour jamais écrite. Et elle parle de Jésus-Christ et son amour pour nous. Même avant que l'homme a été créé, Dieu nous a aimés. Il y a un passage d'Écriture en Éphésiens 1. Est-ce que quelqu'un pourrait lire, s'il vous plaît? Quelle histoire, hein? Quelle belle histoire. Même avant les fondations du monde, Dieu nous a aimés. Et nous sommes maintenant adoptés, une partie de sa famille. Cette histoire parle de Jésus, oui, mais ça parle aussi de nous. On fait partie de cette histoire. Mais si nous ne faisons pas attention, nous pouvons facilement oublier l'histoire. Il y a 3 semaines, je pense qu'on est tous courants de la mort de Robin Williams. C'était publié partout sa mort et c'était incroyablement triste. En fait, on a vu beaucoup d'expressions de tristesse partout dans le monde pour sa mort. Et il y a 2 semaines, j'ai lu que à un certain moment de sa vie, il a accepté Jésus-Christ comme sauveur. J'avais jamais su ça avant. Et si c'est le cas, il est avec son Père, avec son Sauveur aujourd'hui. Mais en même temps, je crois que je peux dire que Robin Williams, dans ses moments de désespoir, il a oublié cette histoire de l'Évangile, cette histoire de le grand amour de Dieu pour lui. Il est difficile de parler de cette question sans le connaître personnellement. Mais c'est tellement facile d'oublier cette histoire de l'Évangile. Il est impératif que nous comprenions qui nous sommes et qui est le Christ. Que nous comprenions exactement ce que fait le Christ sur la croix et ce qui a été accompli en notre nom. Nous chantons la chanson « Grâce infinie » et ce matin, nous allons examiner à nouveau cette histoire ancienne de la grâce étonnante. Cela peut vous surprendre si je vous dis de tourner dans vos Bibles. Est-ce que vous avez une idée? On parle de l'Évangile, donc où est-ce qu'on va tourner? Ésaïe 53 de l'Ancien Testament. C'est drôle, hein? On pense que l'Évangile est trouvé dans le Nouveau Testament, mais en fait, c'est partout dans la Bible. On peut voir l'histoire de l'Évangile de Jésus-Christ mentionnée partout dans la Bible, et on a mentionné dans le passé, mais il y a un petit livre pour les enfants. En anglais, ça s'appelle « The Jesus Storybook Bible ». Et le sous-titre de ce livre est que chaque histoire chuchote son nom. Et ça, c'est une vérité importante pour nous tous de comprendre que au début de l'Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau Testament, c'est l'histoire de Jésus-Christ. C'est l'histoire de l'Évangile. Et l'histoire de son amour pour nous et notre rédemption qui est trouvée en lui. Donc, ce matin, nous allons regarder le livre, un livre dans l'Ancien Testament où le nom de Jésus n'est pas seulement chuchoté, mais c'est presque crié à haute voix pour tout le monde d'entendre. La chose étonnante concernant le chapitre 53 d'Ésaïe, c'est que c'était écrit il y a 700 ans, non, et c'était écrit 700 ans avant la naissance de Jésus. Et il n'y a aucun doute que ça réfère à Jésus, puisque ce chapitre ou une de ses parties est cité plus de 85 fois dans le Nouveau Testament. Donc, est-ce que vous êtes là? Ok, bon. Sinon, c'est écrit sur la mur. Donc. Ok, est-ce que quelqu'un pourrait lire, s'il vous plaît? On va parler premièrement de la rejet de Jésus. Et verset 1 à 3. Quelqu'un pourrait lire.
Qui a cru à notre message? Qui a été révélé? La puissance de l'Éternel. Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant de la salle. Allez. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour recueillir notre attention. Et rien de son aspect, ni de sa vie. Il était mutilé, abandonné des hommes, un homme de douleur à l'expérience. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux.
Merci Louis. Ésaïe commence son chapitre en posant deux questions fondamentales pour voir si quelqu'un fait attention à l'un des événements les plus importants dans toute l'histoire. Israël était à la recherche d'un Messie, mais un Messie qui les sauverait de leur captivité. Ils cherchaient un roi prêt à détruire leurs ennemis et qui leur apporterait puissance et gloire parmi les nations. Ils attendaient un sauveur. Et Jésus est né, et personne ne l'a remarqué. Israël ne savait pas qui était Jésus et ne l'a pas reçu. Il est venu totalement méconnu par les chefs religieux, par les grandes majorités des gens qui le connaissaient, et même par ceux qui étaient proches de lui. De temps en temps, il y avait un semblant de reconnaissance, mais qui ne semblait pas durer trop longtemps, ni d'avoir un impact durable sur les disciples. Son père l'observait. Son père était très intéressé en ce qui déroule ici sur terre, parce que son père aime et aimait à ce moment-là son fils. Il y avait un grand intérêt. Et le libérateur d'Israël était arrivé, et ceux qui devaient être délivrés l'ignoraient. Ça me fait remarquer combien il est facile de passer à côté de notre relation avec le fils. Nous avons été créés pour avoir une relation avec Jésus, avec Dieu. Chacun de nous est né avec le besoin de connaître Dieu. Dieu a rendu cela possible grâce à son plan de salut en Jésus. Pour ceux d'entre nous qui ont reçu le salut par la grâce de Jésus, nous sommes les frères et sœurs. Nous lui appartenons. Sa grâce a rendu possible cette relation et sa grâce nous donne le désir de le connaître. Mais il est si facile de se laisser distraire par le monde qui nous entoure. Et quand je regarde ces deux versets, je me rappelle avec quelle facilité nous pouvons ignorer notre Sauveur. Il y a une strophe dans un cantique qui m'a hanté depuis plusieurs années maintenant. Et la parole dit, si je n'arrive pas à le voir maintenant, vais-je le reconnaître à son retour? Donc, c'est vraiment important de développer notre relation avec Jésus maintenant. C'est maintenant le temps de tomber en amour avec Jésus. Dans verset 2, Ésaïe se réjouit de l'époque de Jésus sur la terre. Comme Dieu regarde vers la terre, sur son jeune fils, Jésus est comparé à une jeune plante, une racine qui sort d'une terre desséchée. C'est une image de la sécheresse spirituelle d'Israël à cette période. Le peuple se retrouve en captivité sous l'Empire romain. Ils ont perdu leur liberté, ils ont enduré plus que 400 ans de silence où les prophètes ne parlent pas. Les chefs religieux ne sont pas intéressés à proclamer la parole de Dieu, mais ils sont plus intéressés dans leur pouvoir, dans leur gloire, et pour recevoir dans leur rôle comme pharisiens, sadduciens et rabbins. Israël est devenu un désert spirituel où rien ne pousse. Mais soudainement, la vie est retrouvée. Dieu a placé une jeune plante dans le désert. Il y a maintenant une racine trouvée sur la terre sèche. La vie est arrivée. Et voici, c'est une petite illustration. Nous avons tous vu, je crois, les films où quelqu'un est perdu dans le désert. Le soleil, c'est chaud. Il n'y a pas d'eau et il y a toujours les gens en train de mourir de soif à cause que il y a un chaud intense. Imaginez que c'est vous qui marchez dans ce désert. Vous ne savez pas où aller parce que dans toutes les directions où vous portez le regard, tout est pareil. Vous avez chaud et une soif incroyable, tellement soif que vous pensez que vous pourriez mourir bientôt. Et pendant que vous marchez au loin, vous voyez quelque chose. Plus vous vous rapprochez, plus votre vision est clarifiée. Au début, tout ce que vous pouvez dire, c'est que c'est vert. Vous arrivez un peu plus proche et vous verrez que c'est aussi rond. Vous arrivez à l'objet et vous découvrez qu'il y a dans le désert, au milieu d'une terre aride, un mélange d'eau. Oui, c'est ça. Mais je sais que c'est une illustration qui manque un peu la profondeur de ce qui se passe. Mais, en fait, c'est quelque chose qui va donner la vie dans une terre aride. Ça, c'est ce que Dieu est en train de dire. Il arrive à planter une racine verte dans une terre spirituelle qui est aride. La vie est arrivée. Dieu a fait sortir une jeune plante, une plante qui va bientôt donner la vie à toutes les personnes qui reçoivent sa grâce. Mais c'est intéressant ici de voir que personne n'était attiré par cette jeune plante. Ésaïe dit qu'il n'y avait pas de beauté en lui pour que nous le désirions. Certains ont prétendu que cela signifie que Jésus était un homme physiquement laid. Je ne crois pas que ça dit ça. C'est pas plus que sa position sociale qui n'a pas attiré personne. Par conséquent, il a été ignoré facilement. Et verset 3, excuse-moi. Verset 3 doit être, je crois, un des versets les plus tristes dans toute la Bible. Est-ce que quelqu'un pourrait lire encore ce verset, s'il vous plaît? Dieu le Père, j'imagine quand il a vu son fils ici sur terre, maltraité, rejeté, sa cœur était brisé, j'imagine. Je ne sais pas à quel point nous sommes capables de briser le cœur de Dieu, mais ce que je sais, c'est quand je vois mon fils méprisé ou rejeté par ses amis, ça me brise le cœur. Ma réaction est quelque chose comme si c'est de prendre mon fils dans mes bras et lui dire, ces gens sont fous et méchants. Tu n'as rien à faire avec eux. Nous allons chercher et trouver les vrais amis. Je suis en colère contre ces enfants-là. Et heureusement, Dieu n'est pas comme moi. En fait, le Père savait exactement ce que nous ferions à son fils. Et pourtant, il a envoyé quand même. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. C'est la seule raison. Il est notre seul espoir. Nous ne pouvons pas nous sauver. Nous sommes morts dans nos péchés. Qu'est-ce qu'une personne morte peut faire? Rien. Ainsi, Jésus vient d'habiter parmi nous et pour toute réponse, nous le méprisons et le rejetons. Ésaïe dit qu'il était un homme de tristesse et habitué à la souffrance. À la fin, Jésus a été rejeté par presque tout le monde, même par ses amis proches. Tous les gens se sont détournés de lui. Personne ne voulait être associé avec Jésus. Personne ne le tenait en haute estime. Jésus est aussi dans cette condition. Il est devenu notre rédemption. Est-ce que quelqu'un pourrait lire, s'il vous plaît, versets 4 à 6?
C'est pour nos fautes qu'il a été venu. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, ses blessures qui nous sont liées. Nous étions tous errants, pareils à des maudits. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes.
Est-ce que vous connaissez le réalisateur, c'est ça, non? M. Night Shyamalan. Ah, oui, il y a un film. Est-ce que vous avez vu le film Signs? En anglais, c'est Signs. C'est un film des extraterrestres. C'est lui qui a fait ce film. Si vous connaissez ces films, alors vous savez qu'il y a toujours une sorte de surprise à la fin. Un de ses meilleurs films est appelé Le Sixième Sens. Est-ce que vous avez vu Le Sixième Sens? Oui. Donc, le film s'agit d'un petit garçon qui est capable de voir les gens morts. Sa mère l'emmène voir un psychiatre joué par Bruce Willis. Et l'histoire se déroule à travers leur relation. Mais, excuse-moi, mais je vais révéler la fin du film ici. Ouais. OK. Si vous pouvez voir. OK. Oui, c'est une très bonne film et je ne veux pas ruiner le film, mais il faut le faire ce matin. Donc, à la fin du film, mais pendant le film, Bruce Willis a eu une rencontre avec un de ses ex-clients et il a été tiré par un pistolet. Il pense être récupéré, mais en réalité, lui et nous, le public, découvrons à la fin du film qu'il est mort et que c'est son fantôme qui apparaît devant le psychiatre. Devant ce petit garçon. Et c'est un moment dans le film incroyable. Si vous avez vu le film, je pense que vous étiez comme moi, comme bouche bée. Vous êtes littéralement choqué par cette révélation. Évidemment, ce n'est pas un film qui parle d'une vision biblique de la mort. Mais ce que je veux dire, c'est que Bruce Willis pensait être vivant alors qu'il est mort. Et on voit une sorte de surprise ici, dans ces versets. Il y a un rebondissement qui nous voyons dans versets 4 et 5. Pourtant, nous l'avons considéré, Jésus, sur le croix, comme puni par Dieu. Quand vous voyez la foule autour de la croix à ce moment-là, il regarde Jésus sur la croix. Pourquoi il pensait Jésus est là? C'est ça, c'est pour ses propres crimes, il est là, hein? Et il doit être si mauvais que Dieu l'a frappé, il l'a torturé sur la croix. Il pense que c'était à cause de ses propres crimes. Mais en réalité, il était là pour quoi? Pour nos péchés. On pensait être vivant quand on était mort, comme Bruce Willis, mais maintenant on trouve vivant au lieu de mort. Incroyable, ce rebondissement. Le choc pour nous, c'est que c'est nous qui sommes coupables. Nous sommes ceux qui devraient être frappés par Dieu, brisés pour nos propres péchés. Mais que recevons-nous? La grâce et la miséricorde de Dieu. C'est le contraire de penser être vivant quand vous êtes vraiment mort. Nous étions morts, mais maintenant nous sommes vivants. Et la chose la plus choquante de tout cela est que nous n'avons rien à faire pour notre salut. Tout a été fait pour nous par une personne dont nous ne voulions rien savoir. Incroyable l'amour de Dieu pour nous. Incroyable l'histoire de l'Évangile trouvée ici en Ésaïe. T'es correct, Jack? Oui. Oui, c'est ça. On va louer le film ce soir et après... Donc, Dieu le Père, par le sacrifice de son Fils Jésus, nous a rachetés. Il a frappé son Fils et à travers cet écrasement, il nous a apporté la paix et nous a guéri des conséquences de nos péchés. Jésus est devenu notre substitut. Ce n'aurait jamais dû être le Fils de Dieu maudit et suspendu sur un arbre. Je dis ça parce qu'il était totalement innocent. Mais dans le plan de Dieu, oui, il était la seule personne capable de le faire. Donc, nous sommes de tourner loin de nos péchés maintenant. Nous sommes rendus justes dans les yeux de Dieu. Ésaïe nous dit que nous sommes comme des brebis qui se sont égarées. Nous nous sommes détournés loin du berger et sommes complètement perdus. Et notre Père nous trouve et nous ramène dans son troupeau. Dieu, dans son grand amour pour nous, était prêt à sacrifier son Fils unique pour nous ramener à lui. La mort de Jésus nous apporte la paix et nous guérit de la culpabilité de nos péchés. Quelle tournure des événements! Jésus a porté nos souffrances et notre douleur. Et maintenant, au lieu d'être condamné, au lieu d'être sous la colère de Dieu, Jésus est capable de nous dire, comme écrit en Matthieu 11, est-ce que quelqu'un pourrait lire ces trois versets-là? Oui. Quel mot d'espoir Jésus a pour nous maintenant. Il a remporté notre paix et notre guérison. Nous vivons dans un monde qui est encore affecté par le péché et nos corps sont encore infectés par le péché. Mais nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes sanctifiés à cause de ce que Jésus a accompli pour nous. Nous tombons toujours et nous souffrons encore. Mais la chose merveilleuse de la grâce est qu'elle couvre tout cela. La grâce a permis d'avoir la paix dans ce monde chaotique. Et on va voir maintenant l'humiliation de Jésus. Quelqu'un pourrait lire les trois prochains versets?
Pour la frapper, il s'est humilié, il ne l'a pas été un homme. Regarde à l'étalier de la croix, comme la brebis du maître. Il a été arraché à l'esclavage. Et qui parmi les hommes peut contenir la vie de tous les enfants lorsqu'il l'a retranché et il est libre? Il a été frappé à mort. Il a mis son tombeau parmi les criminels et son chute de la vie de Dieu. Alors qu'il n'avait pas commis l'acte de violence, il ne peut jamais se retrouver.
Merci, Robin. C'est un plaisir de voir la Bible comme l'histoire de Jésus et de constater qu'elle est complète maintenant. de voir comment chaque histoire chuchote son nom. Pendant trop longtemps, j'étais coupable de regarder la Bible comme une collection de différentes histoires qui nous enseignent des leçons morales. Et ça, c'est pas le point de la Bible. Le thème de la Bible est Jésus et son amour pour nous, notre salut. La Bible est vraiment l'histoire de Jésus-Christ et de son plan de rédemption. Tournez dans votre Bible à Exode 12. Exode 12, versets 1 à 6. 12, 1 à 6. Et si, quand quelqu'un est là, si vous voulez le lire, allez-y.
L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois d'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le dixième jour de ce mois, pour chaque maison, pour chaque famille, se procure un ami. Si dans une maison, on est trop peu nombreux pour manger un ami, on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes. Et on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun demande. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'un an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera cet agneau à la nuit tombante.
C'est beau, merci. Quel événement est-ce qu'on voit ici? La Pâque. Qu'est-ce qui se passait? C'est un souvenir de quoi? Et c'est ça. Et les Israélites étaient supposés de faire quoi à ce moment-là? Et il y avait... c'est ça. Donc, et avec le sang de l'agneau qui était placé du côté de la porte, l'ange a passé au-dessus et il n'a pas entré la maison et les gens d'Israël étaient sauvés par le sang. C'était le sang d'un agneau parfait. Est-ce que ça vous rappelle de quelque chose? Oui, c'est ça. Jésus, encore. Mais incroyable, hein? On voit ici une image de Jésus et ce qu'il va faire pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Encore, on voit chaque histoire chuchote son nom. Je voudrais vous encourager à commencer à lire les Écritures avec ce point de vue à l'esprit. Et je pense que vous serez étonnés de ce que vous allez trouver. Donc, Israël, Ésaïe parle ici de Jésus comme un agneau sacrificiel. Nous devons nous rappeler que cette humiliation que nous lisons à propos de lui n'était pas parce que Jésus était impuissant ou sans espoir. C'était le plan de Dieu qu'il mette de côté sa puissance et aille volontairement à la croix. C'est le point ici. Jésus n'a pas été capturé par les Romains, ni forcé contre sa volonté à mourir sur un croix. Il est allé volontairement en silence à la croix parce que c'était le plan de Dieu pour nous racheter. Il a souffert plus que quiconque n'a jamais souffert et il l'a fait volontairement. Personne autour de lui, personne de sa génération ne savait qui il était vraiment ni ce qu'il faisait. Personne ne savait au pied de la croix qu'il était l'agneau muet mené à l'abattoir, l'agneau qui portait tous nos péchés. Il est intéressant aussi de noter ici les détails que nous voyons de la prophétie d'Ésaïe. 700 ans avant la naissance de Christ, Ésaïe parle de sa mort dans tel détail que nous commençons entièrement. Et mentionné. Ésaïe dit que les gens pensaient que Jésus payait de sa propre mort et leur plan était qu'il soit enterré avec les méchants, les marginalisés, les gens qui n'ont aucune valeur. Mais au contraire, Jésus a été enterré avec les respecter. Un homme riche, Joseph d'Arimathée, a fait don de son propre tombeau personnel pour permettre d'y enterrer Jésus. Et ces détails nous donnent toute confiance que les Écritures sont les paroles de Dieu. C'est arrivé longtemps avant ces événements. OK, finalement, le dernier point. Nous sommes sa récompense. Est-ce que quelqu'un pourrait lire ces versets-là? Au verset 10, nous voyons que c'était la volonté du Seigneur de l'écraser. Il y a eu des discussions et des débats pour déterminer précisément qui a tué Jésus. Certains accusent les Juifs et cette affirmation de leur culpabilité a été la base de la haine envers eux. Certains disent que ce sont les Romains. Après tout, ce sont eux qui ont littéralement procédé à son exécution. Certains disent que c'est vous et moi, puisque nous sommes des pécheurs et que Christ est mort pour le péché, nous sommes responsables de sa mort. Mais les paroles d'Ésaïe répondent véritablement à la question qui a tué Jésus? Qui était responsable? Son Père. Son Père était responsable. Le Seigneur. La volonté du Père était que son Fils devait mourir. Alors Dieu, dans son amour pour nous, l'a envoyé sur la terre pour être mis à la mort. Et Jésus, par son amour pour nous et pour son Père, est allé de son plein gré à la croix. Il ne faut jamais oublier ces deux vérités. Peut-être que vous pourriez dire que c'est la mort qui a tué Jésus. Notre salut et notre sanctification ont été gagnés sur la croix par le Sauveur. Nous n'avions rien à faire avec ça. Nous sommes sauvés par l'œuvre de Christ dans nos vies et nous sommes sanctifiés par l'œuvre de Christ dans notre vie. Nous sommes impuissants dans les deux cas. Je ne peux pas me sauver personnellement et je ne peux pas me rendre saint. Mais par la grâce de Dieu, j'ai la confiance en lui pour ces deux choses. Et finalement, Ésaïe revient sur une autre vérité incroyable. Nous devenons sa récompense. Parce que Jésus nous a rachetés, nous sommes maintenant sa récompense. Peut-être comme moi, à l'occasion, vous direz que Jésus n'est pas tellement récompensé avec moi. Je suis toujours une vase d'argile brisée. J'ai toujours les problèmes avec le péché. Je tombe trop souvent. Mais c'est correct. Paul, dans Romains 7, parle de cette lutte avec le péché. Vous voulez savoir quelque chose de grand? Notre Rédempteur a déjà payé le prix pour tous nos échecs. Il réussira là où nous n'avions aucune chance de succès. Nous sommes devenus son prix, non pas parce que nous sommes dignes, mais parce que nous sommes rendus précieux par le Christ. Jésus a accompli sa tâche de devenir le sacrifice final pour le péché. Quand il nous regarde maintenant, son âme trouve la satisfaction de savoir qu'il a accompli notre salut. Nous avons été rendus justes. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes devenus les enfants de Dieu et les frères et sœurs de Jésus, notre Sauveur. Donc, nous avons examiné ce matin ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix. Nous avons vu la preuve de l'amour du Père et du Fils pour nous. Le Saint-Esprit habite maintenant en nous et continue de travailler en nous pour nous perfectionner. J'espère que cette histoire ancienne de l'Évangile ne vieillit jamais. Que cette grâce est toujours étonnante pour vous. J'espère que nous nous rappelons constamment de l'océan de grâce dans lequel nous nagions. J'espère que vous pouvez voir Dieu le Père comme un Dieu qui vous aime tellement qu'il est prêt à sacrifier son propre Fils. Et j'espère que nous allons tous aimer avec tout notre cœur le Fils, que nous allons partager son histoire avec d'autres, que nous vivrons en paix sans crainte, parce que toute la colère de Dieu a été répandue sur son Fils. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Dieu n'a plus de colère à déverser. Comme l'a dit Jésus sur la croix, tout est accompli. On va chanter un dernier chant et j'invite Jean-Philippe et les chanteurs qui veulent chanter, c'est grâce infinie. Pardon? Quoi? Oui, mais c'est juste à 10 mineurs. Si bémol. Fa. Do. Ok.
Alléluia, 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 Alleluia, con grandi, la grazia tu la chiama. Alleluia, 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 tu la chiama.